vous suit.
Voici les titres du journal.
La municipalité d'Aigle va offrir des brassards réfléchissant à sa population, une opération qui se veut utile en cette période de crise énergétique. On vous en parle dans ce journal. Tous les restaurateurs et hôteliers valaisans vont devoir renouveler leur autorisation d'exploiter ces prochains mois. Un exercice inédit qui vise à écarter les éventuelles brebis galeuses. Les services d'urgence sont proches de la rupture dans les hôpitaux de notre pays. Deux associations helvétiques de médecins urgentistes ont ainsi décidé d'agir en interpellant les autorités cantonales et les directions d'hôpitaux. Transparency International dénonce pour cette organisation. Trop peu d'entreprises helvétiques sont en effet condamnées dans des affaires de corruption ou de blanchiment d'argent. Et puis du sport aussi dans cette édition. Ski alpin, c'est parti pour les épreuves masculines de Wengen. Et en automobilisme, le pilote aiglon Sébastien Buemi va retrouver la Formule E ce week-end au volant d'une nouvelle voiture.
Et pour la météo, c'est un week-end plutôt maussade qui nous est annoncé par Météo Suisse. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Les aiglons vont recevoir un cadeau de Noël après l'heure de la part de leur municipalité. L'exécutif local a en effet commandé des brassards réfléchissants qui seront distribués dans les écoles, puis à retirer à l'office communal. Derrière le côté ludique de l'opération, la volonté de rappeler les bonnes pratiques à suivre en cette période de crise énergétique et surtout les faire perdurer. Grégory Deveau, syndic d'Aigle.
On est convaincu que lorsqu'on doit faire des économies d'énergie, c'est un tout, c'est différentes mesures. Alors ça passe par tout ce qui se fait sur les bâtiments, sur l'éclairage public bien sûr, mais il faut ensuite rappeler quelles sont un peu les bonnes pratiques. Et c'est vraiment sous cet angle-là qu'on a choisi cette opération parmi d'autres, qui était de se dire, ben oui, s'il y a moins d'éclairage, donc des économies d'énergie, ben forcément que les citoyens sont moins visibles le long des routes, des trottoirs. Et puis il faut rappeler qu'il faut pouvoir être vu, en particulier pour les plus jeunes ou pour les aînés. Donc on a, sur proposition d'un citoyen, choisi cette option de brassard réfléchissant que l'on a effectivement commandé et qu'on distribuera d'abord dans toutes les écoles avec tous les enfants qui en recevront un ou plusieurs pour leur famille par exemple. Et puis ces brassards seront aussi disponibles ici même au secrétariat municipal, peut-être même à la police, disons dans les différents guichets communaux pour pouvoir simplement s'équiper dans ces périodes qui sont encore un peu sombres, encore une fois en fin de journée ou en début de matinée.
Grégory Deveau avec Thierry Nicolet. Cette action n'est pas sans rappeler celle mise en place par la municipalité de Vevey à fin décembre. Les habitants avaient alors reçu un pommeau de douche économe. Un livreur de marchandises est décédé mardi dans le cadre de son travail à la rue de Lalle à Lausanne, a-t-on appris aujourd'hui. Cet Espagnol de 49 ans a été touché à la tête en manœuvrant la plateforme élévatrice de son camion. Pris en charge par les secours et acheminé à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de ce drame. Une initiative pour un salaire décent est lancée en Valais. Réunis ce matin en conférence de presse, des représentants cantonaux du monde politique et syndical demandent d'instituer un salaire horaire minimum de 22 francs, indépendamment du type de contrat de travail. Une dérogation est prévue dans le secteur de l'agriculture avec un montant de 18 francs. Les initiateurs ont désormais une année pour récolter les quelques 4000 signatures nécessaires à l'aboutissement du texte. Le canton du Valais toujours a annoncé ce matin avoir déposé une plainte pénale contre inconnu pour un acte de braconnage présumé. Résumé d'un lynx, l'animal a été retrouvé dans la région de Crans-Montana en octobre dernier. Il était en état de décomposition. Effectué par l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne, le rapport d'autopsie a révélé la présence d'éclats de balles dont la localisation et l'étendue suggèrent un lien direct avec la mort de l'animal. Pour mémoire, le lynx est une espèce strictement protégée et son braconnage constitue un délit de chasse poursuivi d'office.
Du pain sur la planche en perspective pour les communes valaisannes.
D'ici au 31 août, elles devront en effet avoir réexaminé toutes les autorisations d'exploitation délivrées aux cafetiers, restaurateurs et hôteliers. Pour les professionnels concernés, cela signifie qu'ils devront produire différents documents officiels, comme des extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire, ou encore un certificat de capacité pour l'exercice des droits civils délivrés par les APEA. Ce tour de vis est une conséquence de la révision de la loi cantonale sur l'hôtellerie-restauration qu'avait réclamée la fêtière Gastro-Valais. Cela même si elle impose aujourd'hui et momentanément des démarches administratives supplémentaires aux 1650 membres de l'association. Son président André Roduit nous en explique la région.
Le but, c'était vraiment d'écarter les cas des nouveaux arrivants pour que les communes aient l'obligation d'avoir une vision sur qui est-ce qui demande une autorisation d'exploiter. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire faillite à Martigny et ouvrir un établissement sans donner les informations dans les stritières. Donc ça allait pas. Et on reportait un petit peu plus loin le non-paiement des fournisseurs, le non-paiement du personnel. Et puis nous, pour notre visibilité et puis la reconnaissance de la branche, on n'a pas besoin de ce genre d'acteurs dans la restauration.
Les autorités communales qui vont devoir se pencher sur ces nouvelles demandes de patentes, est-ce qu'elles ont une marge de manœuvre ?
Oui, c'est absolument notre idée, c'est que les autorités aient la marge de manœuvre de décider s'ils accordent ou pas l'autorisation d'exploiter, mais cette fois-ci en connaissance de cause.
Est-ce qu'on peut penser, André Roduit, que suite à ce réexamen, en quelque sorte, passablement de cafetiers-restaurateurs pourraient voir la patente leur être retirée?
J'ai pas l'impression, sur les calculs que l'on a fait et les informations qu'on a, on n'a pas toutes les informations, que ça va créer une vague de fermeture dans les établissements valaisans. Ça va juste remettre les règles du jeu en place, un tout petit peu plus serrées. Finalement, à long terme, ce sera bénéfique pour l'image de notre profession.
Des propos recueillis par nos confrères de Rennes FM. Image Vevey relance ses concours internationaux de photographie. Plus de 50 000 francs de bourse d'aide à la création sont proposés à cette occasion. Artistes et photographes professionnels ou en formation pourront s'inscrire à la 14e édition du Grand Prix Image Vevey et ou à la 5e édition du Prix du Livre. Les inscriptions seront ouvertes ce prochain mardi 17 janvier et elles seront prises jusqu'au 17 février. Informations et contacts à l'adresse email grandprix@images.ch. Actualité nationale, quelques jours avant l'ouverture du World Economic Forum de Davos 2023, Greenpeace souligne à nouveau que les jets privés effectuant des navettes pour cette manifestation engendrent 4 fois plus d'émissions de CO2 qu'en temps normal. En 2022, près de 1040 jets privés ont fait des allers-retours émettant autant de CO2 que 350 000 voitures, rappelle l'organisation écologiste. L'obligation de dépistage imposée par le gouvernement tessinois en 2021 au personnel de santé non vacciné contre le coronavirus était légale. Le tribunal fédéral estime que cette atteinte aux droits fondamentaux était proportionnée dans le contexte de l'époque. Dans un arrêt publié aujourd'hui, le TF rejette le recours déposé par 32 particuliers contre l'arrêté promulgué le 8 septembre 2021 par le Conseil d'État tessinois. Cet acte imposait au personnel des établissements de santé non vaccinés de se soumettre régulièrement à des tests de dépistage Covid. Bien que le recours ne présente plus d'intérêt actuel dès lors que l'arrêté a été abrogé à fin mars 2022, le tribunal fédéral l'a examiné au fond. En effet, le recours soulève des questions de principe qui pourraient se poser à nouveau à l'avenir.
Les services d'urgence sont proches de la rupture en Suisse.
L'augmentation et le vieillissement de la population ainsi que le manque de généralistes entraînent en effet un engorgement des urgences des hôpitaux de notre pays. Deux associations helvétiques de médecins urgentistes ont décidé d'agir. Dans un courrier envoyé mercredi, elles interpellent les autorités cantonales et les directions d'hôpitaux de tout le pays et leur réclament un soutien accru. Mais pourquoi maintenant ? Une question posée par nos confrères de Radio Fribourg à Vincent Ribordi, médecin-chef des urgences de l'hôpital de Fribourg et coprésident de la Société suisse de médecine d'urgence.
Il y a cette période prolongée de charge sans perspective d'une démission. Il y a aussi le souci d'une aggravation de la pénurie de personnel stratégique pour l'hôpital. Il y a aussi le maintien d'une pression financière, économique sur le système de santé. Tout ça mis ensemble nous montre que sans changement, on va dans le mur et que c'est le moment d'alerter les autorités.
Mais c'est des problématiques qui ne sont pas neuves.
Elles sont pas neuves, mais la vitesse à laquelle les choses ont évolué ont été étonnantes. On parvient peut-être à une limite et c'est le moment de faire le point sur tout ça.
Les urgentistes réclament aussi la reconnaissance officielle de la spécialisation en médecine d'urgence. Aujourd'hui, en Suisse, on devient médecin urgentiste seulement après une formation supplémentaire à effectuer après la spécialisation.
Trop peu d'entreprises suisses sont condamnées dans des affaires de corruption ou de blanchiment d'argent.
Transparency International publie ainsi aujourd'hui un rapport sur le sujet. L'association y dénonce les négligences des ministères publics en matière de poursuites pénales des entreprises. Depuis une vingtaine d'années, seules 10 sociétés ont été condamnées de manière définitive. Une information que Transparency International a eu beaucoup de mal à obtenir. Martin Hilti, directeur de l'association.
L'accès aux ordonnances pénales des parquets, il est compliqué. Il faut faire une demande de consultation correspondante pour chacun d'entre eux. Et de plus, les informations obtenues ne sont parfois pas fiables. Les ministères publics ne connaissent parfois même pas leur propre jurisprudence, il semble, parce que les systèmes de gestion des affaires sont inadaptés, d'après notre impression.
Et qu'est-ce que vous avez pensé des documents que vous avez réussi à trouver? Est-ce que vous avez pu avoir les informations que vous cherchiez?
Bon, tout d'abord, les ordonnances pénales sont trop peu nombreuses et de plus, elles sont parfois trop succinctes et même incohérentes sur certains points. Il en résulte que la jurisprudence rendue jusqu'à présent, elle manque de clarté et d'uniformité sur des points essentiels.
Des propos recueillis par notre correspondante au Palais fédéral, Marie Villemier. Ajoutons que Transparency International appelle les ministères publics à adopter des directives contraignantes et accessibles au public sur leurs pratiques en matière de poursuite pénale des entreprises et de garantir un meilleur accès à leurs décisions. L'installation photovoltaïque la plus vaste sur terrain libre de Suisse va voir le jour dans le périmètre de l'aéroport de Berne-Belp. Le groupe énergétique bernois BKV et la direction de l'aéroport s'unissent pour réaliser ce projet qui va s'étendre sur 25 hectares pour produire de l'électricité pour 15 000 foyers. Les coûts d'investissement s'élèvent à environ 30 millions de francs, annoncés aujourd'hui les deux sociétés. Ce parc photovoltaïque verra le jour au sud-ouest de la piste, sur le terrain clôturé de l'aéroport de Berne-Belp, dans le périmètre des pistes en herbe.
L'Ukraine contient pour le moment une offensive russe de forte intensité à Soledar.
Oui, c'est ce qu'a affirmé ce matin la vice-ministre de la Défense, Ghana Maliar, cela malgré une nuit chaude dans cette petite ville de l'est du pays. Selon elle, la Russie a jeté presque toutes ses forces principales en direction de la région de Donetsk. Elle maintient une offensive de forte intensité, d'ajouter qu'il s'agit là d'une phase difficile de la guerre que l'Ukraine entend cependant gagner. Et puis on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, la Russie de son côté, affirme qu'avoir pris possession de Soledar. Ce sera une information à vérifier, évidemment, en cours d'après-midi et dont nous vous tiendrons plus ample informés en fin de journée. Le bilan de l'attentat suicide cette semaine à proximité du ministère afghan des Affaires étrangères à Kaboul. L'attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste État islamique est de 10 morts, a annoncé aujourd'hui l'ONU. Même si les talibans assurent maîtriser la sécurité, des dizaines d'attentats visant des civils ont été perpétrés ces derniers mois, la plupart revendiqué par l'EI. La bousculade meurtrière qui a fait plus de 150 morts à Séoul lors de la fête d'Halloween l'an dernier est due à de la négligence et à des défauts de préparation, a conclu aujourd'hui l'enquête de la police locale. Le Kazakhstan a abrogé aujourd'hui une loi conférant une autorité considérable à l'ex-président Nursultan Nazarbayev, lequel a dirigé pendant 3 décennies ce pays d'Asie centrale. C'est l'épilogue d'un processus législatif et politique pour écarter son clan du pouvoir. Fille de la légende du rock'n'roll Elvis Presley, la chanteuse Lisa Maria Presley est décédée hier à l'âge de 54 ans, selon des médias américains citant sa famille. Elle avait été hospitalisée quelques heures plus tôt après un arrêt cardiaque. On termine ce journal avec du sport. En ski alpin, le Super G de Wengen a démarré tout à l'heure, sur le coup de midi. Cette course lance le week-end d'épreuves du Lauberhorn avant la descente de demain et le slalom qui aura lieu dimanche. Un week-end à la saveur particulière pour le Bernois Beat Feutz. À bientôt 36 ans, il mettra un terme à sa carrière la semaine prochaine à Kitzbühel. Une décision annoncée en fin d'année passée et sur laquelle le champion olympique de descente ne reviendra pas.
Elle est définitive. Aujourd'hui, le sentiment qui m'habite, c'est que je me réjouis d'être une dernière fois à Wengen, puis une dernière fois à Kitzbühel la semaine prochaine. Mais je me réjouis aussi de refermer ce chapitre de ma vie. Vous savez, après avoir annoncé ma retraite en décembre, j'ai dû faire l'impasse sur les épreuves de Bormio car je ne me sentais pas bien. Je les ai regardées depuis mon canapé et ça ne m'a provoqué aucune amertume. C'est un signe qui prouve que je suis en accord avec ma décision. J'étais là, devant ma télévision, et à aucun moment je me suis dit que je regrettais de ne pas être au départ.
Au départ aujourd'hui, on retrouve une fois de plus Justin Murizier, le bagnard qui a décidé d'accentuer son implication dans les disciplines de vitesse vu une situation inédite depuis le début de la saison. Engagé sur chaque course en géant descente et donc en super G, il doit apprendre à gérer ses forces.
Je gère un peu au jour le jour. C'est clair que j'avais une planification un peu en tête de comment ça allait se passer, mais avec l'opération et le manque d'entraînement, il a fallu un peu sauter dans le train quand il était déjà en route. Et puis voilà, j'ai des douleurs, j'essaie de gérer avec les douleurs, de faire quand même des journées d'entraînement, mais quand même j'essaie de récupérer entre deux. Donc c'est vrai qu'après Bormio j'étais quand même vraiment vraiment sec, et là j'ai remarqué que c'était important que je me pose. Et là c'est vrai que ce que Foyt me donne comme conseil, c'est qu'il m'a dit, et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire les entraînements à fond du haut en bas, et il me dit calme-toi, fais des parties, c'est là que tu peux quand même gagner sur toute la saison au niveau de l'énergie. Ouais.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Wengen, Christophe Morillon. Tennis, pas de demi-finale au tournoi WTA 500 d'Adélaïde pour Belinda Bencic et Daria Kazatskina se sont qualifiés sans jouer. Adversaire de la Saint-Galloise Veronika Kudermetova, renoncée en raison de douleurs à la hanche. Quant à Paola Badoza, appelée à affronter Daria Kazatskina, elle a déclaré forfait à cause d'une gêne à la cuisse. La proximité de l'Open d'Australie qui débutera ce lundi explique pourquoi les joueuses n'entendent prendre aucun risque. Belinda Bencic disputera ainsi demain sa 16e finale, sa deuxième à Adélaïde après celle perdue en 2021 face à Iga Świątek. En automobilisme, pardon.
La compétition, elle reprend ce samedi pour Sébastien Buemi.
Reprend samedi pour Sébastien Buemi. En effet, le pilote aiglon va retrouver le championnat du monde de Formule E ce week-end. Formule E, la première manche de la saison se déroulera en effet à Mexico City. Et le pilote de 32 ans sera au volant d'une nouvelle voiture, lui qui a rejoint l'écurie Envision Racing en octobre dernier. Ce ne sera pas la seule nouveauté, puisqu'en 2023, le règlement concernant la mécanique des machines a été passablement revu. De quoi promettre un changement important, ce qui concerne la conduite. Les explications de Sébastien Buemi.
Tout d'abord, une voiture beaucoup plus puissante. Ça, c'est sûr que ça va faire une grosse différence. Plus de 350 chevaux de plus. C'est sûr que d'un autre côté, la voiture est plus légère. C'est, je crois, quasiment 60 kilos de moins. Elle est plus étroite, elle est plus petite pour être plus maniable sur les circuits en ville. On court que sur les circuits en ville. Et surtout, elle a un système de récupération d'énergie sur les roues avant. Donc la voiture est beaucoup plus efficace. On récupère jusqu'à 40% de l'énergie qu'on consomme par tour en freinant. Donc ça, c'est plutôt énorme. Après, voilà, il faudra essayer d'optimiser toutes ces choses-là. Ça rend la voiture beaucoup plus complexe qu'elle était avant dans la deuxième génération. Donc à nous d'être capable de tout de suite, on va dire, mettre le doigt sur ce qui va nous amener de la performance. Mais voilà, en termes de performance, on s'attend à des vitesses de pointe de 20-30 km/h plus élevées. On s'attend à une voiture quand même plus rapide sur le temps autour.
Ouais, voiture plus rapide, plus performante, ça implique d'adapter aussi son pilotage. Il faut être capable de vite pouvoir réagir, vite pouvoir s'adapter.
Voilà, donc c'est vrai que durant ces essais à Valence et même avant, on a essayé de comprendre comment bien régler cette voiture, comment essayer d'en extraire le plus de performance possible. Maintenant, il faudra faire attention durant les essais, monter en puissance. On a un petit peu moins de pneumatiques par rapport aux saisons passées. Donc là, il faut faire attention à ne pas les imbiber en début de journée. Il va falloir faire attention à ne pas avoir d'accident, parce que la voiture est tellement complexe qu'un accident le matin peut vous faire louper complètement tout le week-end de course. On connaît, je connais bien la Formule 1, donc maintenant je me réjouis d'être en piste samedi au Mexique.
Sébastien Buemi, interrogé par Julien Traxel. Le retour aux affaires pour le pilote aiglon en Formule E, c'est donc dès demain samedi à Mexico City.
L'actu en continu, radiochablais.ca.